LFI dénonce à l'Assemblée nationale un passage en force après la signature de l'accord de l'Élysée au Dino. Vous racontez n'importe quoi, répond la ministre des Outre-mer. Météo encore instable, au moins jusqu'à vendredi. La situation dépressionnaire continue de générer des pluies par endroits intenses, notamment sur le nord et la côte est. Attention aux dérives en ligne, l'État envoie un message de fermeté face à ce qui menace les élus. Le Hyrox, une nouvelle discipline qui fait de plus en plus d'émules. Elle combine endurance, force et mental, découverte dans ce journal. En métropole, Sébastien Lecornu annonce qu'il va avoir recours au 49-3 pour voter le budget. LFI et le Rassemblement national déposent chacun une motion de censure. Faire front commun face à Donald Trump qui veut annexer le Groenland, les pays européens organisent la riposte. Et puis le sport avec du football, deux défaites françaises lors de l'avant-dernière journée de Ligue des Champions. Le PSG s'incline face au Sporting Portugal et Monaco explose sur la pelouse du Real Madrid. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'accord Élysée-Oudinot continue de faire réagir. Il a été signé tôt hier matin par les délégations calédoniennes réunies depuis vendredi à Paris. Et au lendemain de la signature de cet accord, Nicolas Legrand, il a fait l'objet d'une question au gouvernement. C'était la nuit dernière pour nous à l'Assemblée nationale.
Oui, et c'est le député insoumis Bastien Lachaud qui a interpellé le Premier ministre Sébastien Lecornu, le parlementaire LFI, soutien du FLNKS et qui est d'ailleurs intervenu sur le dossier calédonien à plusieurs reprises et venu aussi sur le territoire. Critique vivement la méthode du gouvernement. Il estime que les discussions n'auraient pas dû se tenir sans le FLNKS et qu'Emmanuel Macron rompt avec l'esprit du consensus.
Le macronisme est arrivé avec son irresponsabilité, son extrémisme, son inconséquence qui en ont fini avec l'indispensable neutralité de l'État. En mai 2024, vous avez voulu forcer le dégel du corps électoral sans accord préalable. Le résultat, 15 morts, un archipel au bord du gouffre. Depuis juillet 2025, vous continuez à vouloir passer en force. Après le refus du FLNKS, représentant légitime du peuple premier, comment osez-vous parler d'accord de Bougival ? Comment osez-vous parler d'accord Élysée-Oudinot ? Aujourd'hui, vous balayez toute la méthode initiée par Michel Rocard, tout l'esprit de la poignée de main.
Puis le député LFI Bastien Lachaud brandit des menaces en demandant la tenue d'élections provinciales avec un corps électoral gelé.
En réalité, vous ne voulez pas d'une solution consensuelle. Emmanuel Macron ne veut qu'une seule chose, la Nouvelle-Calédonie française. Mais à la fin, vous perdrez tout, car rien n'arrête un peuple qui se lève pour son droit à l'autodétermination. Monsieur le Premier ministre, combien de morts en Kanaky-Nouvelle-Calédonie faudra-t-il pour que vous cessiez enfin le passage en force ? Que vous convoquiez les élections provinciales en respectant l'esprit et la lettre de ce que le peuple français a voté, de notre constitution, de l'accord de Nouméa.
Et ce n'est donc pas le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a répondu, mais la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchouk, qui a commencé par recadrer le député insoumis. Elle rappelle que les groupes politiques ont tous été invités et que c'est le FLNKS qui a décidé de boycotter ce rendez-vous parisien qui servait justement à préciser l'accord de Bougival.
Avec tout mon respect, monsieur le député, vous racontez n'importe quoi. Le FLNKS n'a jamais été exclu de quoi que ce soit. Le FLNKS a été invité, il était attendu comme les autres. Il a fait le choix de ne pas venir. Dont acte, monsieur le député. Mais la politique de la chaise vide, vous voyez, ça n'a jamais fait un compromis. Ça n'a jamais fait une solution, monsieur le député. Ben sinon quoi alors ? Il faudrait attendre indéfiniment pendant que le territoire de la Calédonie est en train de s'écrouler ? Il faudrait attendre ? Évidemment que non. Alors nous avançons avec ceux qui veulent avancer. Encore le passage en force, mais attendez, mais où ça ? 4 jours de discussion à Paris qui ont suivi des semaines de discussion, des mois avec des forces politiques qui ont fait le choix courageux de venir discuter, de se confronter. Ça n'était pas facile parce que vous savez qu'elles ont aussi des cibles dans le dos.
Naïma Moutchouk poursuit sa réponse sous les vociférations de Mathilde Panot, chef du groupe Insoumis. Elle indique que le FLNKS, qualifié par Bastien Lachaud de porte-parole légitime du peuple premier, n'a pas le monopole de la parole indépendantiste et que les discussions ont permis d'aboutir à un accord des 5 formations politiques présentes.
Vous qui aimez la représentativité, je me permets de vous dire que le monde indépendantiste, il est aussi représenté par l'UNIPALICA. Je le dis devant la représentation nationale, monsieur le député. Et à la fin des fins, ces discussions, elles ont été rugueuses parfois. Eh bien, elles ont donné lieu à un accord global. Et j'aimerais bien qu'on parle de fond aussi, monsieur le député. Un accord global qui va permettre à la Calédonie demain de marcher sur ses 2 jambes, vous voyez, institutionnelles et économiques. Là aussi, parlons de ce qui intéresse les habitants, l'économie, la possibilité de se redresser, d'offrir des perspectives. Vous inquiétez pas, merci. Madame la Présidente, demain, il y aura un processus parlementaire. J'espère que vous serez à la hauteur et que vous ne jouerez pas petit bras.
Rendez-vous donc en février devant le Sénat pour l'examen du projet de loi constitutionnelle. Il passera ensuite en mars-avril devant l'Assemblée nationale, puis au Congrès de Versailles.
Et on attendait la réaction du FLNKS qui a refusé de se rendre à Paris pour ce nouveau round de discussion autour de l'accord de Bougival. La position est tombée il y a quelques minutes par voie de communiqué signé du président du FLNKS, Christian Théin. Un pseudo-accord imposé sans le peuple kanak ne peut engager l'avenir de notre pays ni fonder la démocratie, écrit-il. Le Front de Libération kanak et socialiste rejette donc sans équivoque les conclusions de la séquence dite Élysée-Oudinot. Ce texte n'est pas un accord et ne constitue en aucune manière une avancée politique. Il entérine au contraire un passage en force de l'État en prolongeant et en verrouillant le projet dit de Bougival qui a formellement et définitivement rejeté par le FLNKS du fait de sa totale incompatibilité avec la trajectoire de décolonisation de Kanaky, écrit encore Christian Théin, qui parle d'un accord sans le peuple autochtone et d'une hyper-provincialisation dangereuse pour l'unité du pays. En conclusion, il condamne donc cet accord de Bougival. Nous ne reconnaissons pas ce pseudo-accord et nous ne l'accepterons jamais. Le FLNKS poursuivra son action politique pour faire respecter la trajectoire vers la pleine souveraineté telle que prévue par l'accord de Nouméa et le droit international. La décolonisation d'un pays ne peut pas être contournée. On la respecte, on l'accompagne ou on la combat, conclut Christian Théin dans ce communiqué du FLNKS qui entérine donc le rejet des discussions qui ont eu lieu à Paris la semaine dernière.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Êtes-vous satisfait de la signature de l'accord Élysée-Oudinot qui apporte des précisions à l'accord de Bougival ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1. Si vous ne l'êtes pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, à un mois de la rentrée scolaire et après un nouvel acte de vandalisme à Dumbéa, 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut renforcer le dispositif de sécurisation des écoles. Ils sont 32% à penser que ce n'est pas la peine. L'autre grand titre du jour, c'est évidemment la météo. La Nouvelle-Calédonie est toujours sous l'influence d'un minimum dépressionnaire, Lionel Sabot.
Oui, un minimum qui est suivi de près depuis plusieurs jours maintenant par les services météo. Ce minimum s'est développé, vous le savez, au nord de la Nouvelle-Calédonie. Il a évolué ensuite très au large de la côte ouest pour finalement s'évacuer la nuit dernière par le sud. Ce matin, ce minimum était localisé dans le nord de Norfolk. Cette dépression s'évacue donc progressivement, mais le territoire reste concerné par un front pluvieux orageux qui est lié à ce minimum de basse pression. Gilles Deveau est chef révisionniste au Centre Météo France de Nouméa.
Au niveau des précipitations, même si elles se font plus éparses, elles vont garder ce caractère localement orageux qui peut par endroits donner des cumuls encore importants. Régulièrement, il y a encore des passages d'averses qui donnent vraiment par moments, elles sont soutenues et il faut rester encore très prudent. Même si le minimum s'est éloigné, le vent est encore bien établi, il est au nord-ouest avec un vent qui souffle entre 25 et 30 nœuds. Il se situe sur l'ensemble du territoire entre 75 et 90 km/h. Alors il va mollir entre 25 et 30 nœuds. Et puis cette baisse va continuer en cours d'après-midi.
Une baisse d'intensité à des vents qui vont encore s'accentuer dans le courant de la soirée. Une accalmie qui sera pourtant de courte durée. On retrouve Gilles Deveau.
Il est très très important d'attirer l'attention des Calédoniens sur le fait qu'un autre petit minimum est actuellement en formation dans le nord des Chesterfield, à environ 350 km dans le nord des Chesterfield. Et il va descendre rapidement pour circuler en cours de nuit prochaine. A priori, dans l'ouest immédiat de la Grande Terre. Ça fait qu'après cette accalmie temporaire du vent en soirée, on va avoir une reprise du vent au secteur nord et nord-ouest par la pointe nord du territoire et on va se retrouver à nouveau avec un vent qui va pouvoir atteindre les 25 nœuds avec des rafales qui vont pouvoir dépasser les 75 à 80 km/h.
Et ce deuxième minimum de basse pression va donc passer très rapidement avec son éloignement. Les pluies devraient cesser demain dans le courant de la matinée. Le vent demain dans l'après-midi. Retour à un temps plus calme avec peut-être quelques petits rayons de soleil pour vendredi et le week-end qui vient.
Et pour l'heure, pas de conséquences graves à signaler, hormis les axes secondaires qui peuvent être par endroits difficilement praticables. C'est le cas par exemple à Koumac, explique Valérie Théin-Baye, la 7e adjointe au maire de la commune.
Bon, à Koumac, là ce matin, on a toujours du vent, beaucoup de vent, de la pluie par intermittence. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont bloqués derrière radis aux grottes. Côté Poume, Fridolines, c'était bloqué aussi cette nuit. Mais sinon, voilà, le village, il vit quand même, tout le monde est au travail, on s'occupe. Bon, les vacances, les enfants, c'est compliqué que ce temps, mais bon. Un peu de pluie, mais pas puisque ça pas plus moins qu'hier, quoi, déjà. Ça a été surtout dans la en fin de journée, dans la nuit, que qu'on a eu des rafales et puis beaucoup de pluie par moment. Mais là, ça a l'air de se dégager plus ou moins. Ben, nous, on a mis un système d'hébergement en urgence au cas où des personnes étaient en situation de... Ben, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, surtout dans l'extrême nord, là, à Poum. Donc, on a hébergé des personnes au centre de la commune, là, pour la nuit. Et puis, des personnes dialysées aussi, pareil, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et puis voilà, on fait comme on peut, hein, on reste solidaire dans des moments pareils. Il ne faut pas se mettre en danger parce qu'on ne sait pas non plus où ça en est et comment ça va évoluer, parce qu'apparemment il y en a encore un derrière. Donc moi je dis à la population de rester prudent et ne pas affronter, de ne pas traverser les criques, surtout les crues et tout, que c'est dangereux quand même, il faut faire attention à soi.
Autre conséquence de ce passage du minimum dépressionnaire avec de nouvelles coupures d'électricité qui ont eu lieu hier dans la soirée sur le réseau Enercal. À l'heure où nous parlons, 2571 clients sont encore privés d'électricité, 2200 sur la côte Est, à Yengen, Touo, Poindimier, Ponériouin, Wailou et Kouawa, et 371 sur la côte Ouest, à Poya et Ouégua. Les équipes d'Enercal sont sur le terrain pour réalimenter un maximum de clients dans la journée avec une cible d'au moins 500 clients non alimentés d'ici ce soir, indique le distributeur dans un communiqué. Par ailleurs, à Poindimier, plusieurs administrés sont touchés depuis hier soir par des problèmes de distribution d'eau. Selon la municipalité, les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour tenter de résoudre le problème dans les plus brefs délais. Les personnes impactées sont invitées à prendre leur mal en patience. Les problèmes de distribution d'eau devraient être résolus dans l'après-midi. 11h43, une pause et on se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Incendie, inondation, cyclone. Les risques naturels sont nombreux et bien réels. Êtes-vous sûr d'être bien assuré? En cas de doute, prenez contact dès maintenant avec votre assureur. Parce qu'être assuré, c'est être protégé. Ceci est un message du COSODA, Comité des entreprises d'assurance de Nouvelle-Calédonie.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité sur le territoire avec ce message de fermeté de l'État face aux dérives sur le net. Le président de la République et la ministre des Outre-mer ont salué le courage des élus présents à Paris pour les discussions politiques. D'autant plus, Nicolas, que certains d'entre eux sont menacés, notamment sur les réseaux sociaux.
Oui, le Haut-Commissariat a donc mis en place une cellule pour veiller à l'ordre public numérique. Ces dernières 48 heures, l'État a saisi le procureur de la République à deux reprises en vertu de l'article 40. Anaïs Haït-Mansour, la directrice de cabinet du Haut-Commissaire, était notre invitée ce matin pour évoquer ce sujet et elle condamne ses agissements.
C'est absolument inacceptable aujourd'hui que des élus soient menacés pour leur action sur les réseaux sociaux. Et on observe en effet ces derniers jours une hausse assez importante de propos à caractère haineux, diffamatoire, voire incitant à la violence sur les réseaux sociaux. Et les services de l'État sont particulièrement mobilisés afin de faire respecter la loi.
Ce sont principalement les élus qui sont visés ?
Pas uniquement, en fait. On a parfois des groupes d'individus qui sont ciblés, des appels à la violence gratuits. Il faut bien comprendre comment ça peut créer un environnement délétère, et notamment délétère pour le débat public, délétère pour la sécurité des personnes, et ça peut aller très loin.
Anaïs Haït-Mansour, la directrice de cabinet du Haut-Commissaire, qui tient à rappeler que ce ne sont pas des actes anodins et que les auteurs et administrateurs de pages sont tenus pour responsables des propos illicites.
Il y a eu un certain nombre de poursuites, y compris l'année dernière, qui peuvent aller jusqu'au placement en garde à vue et au déferrement. Moi, ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter d'être dans l'impunité, parce que beaucoup d'auteurs de ces contenus illicites étaient pour certains des primo-délinquants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de casier judiciaire. Parce qu'ils pensaient que sur les réseaux sociaux, l'anonymat, la dématérialisation permet de diffuser des propos haineux et illicites. J'en appelle à la responsabilité, même si on publie de façon anonyme, on peut devoir rendre compte de ce qu'on publie et de ce qu'on diffuse auprès de la police, de la gendarmerie et de la justice. Il y a 3 responsabilités pénales sur la diffusion de contenu haineux. Il y a la responsabilité de l'auteur du contenu, il y a la responsabilité de l'administrateur de la page publique. Même sur Facebook, quand vous administrez une page publique, vous êtes comme un directeur de publication, vous devez modérer vos contenus. Et enfin, il y a la responsabilité des plateformes, dit les GAFAM, Facebook, Twitter, Instagram. Dès lors qu'il y a un contenu qui est haineux, les plateformes sont tenues de le supprimer.
L'année dernière, le Haut Commissariat a donc saisi le procureur de la République à 10 reprises. 70 personnes ont également déposé plainte pour des messages jugés illicites sur les réseaux sociaux. Les internautes qui sont d'ailleurs invités à signaler ces contenus haineux pour préserver un espace numérique respectueux. Signalement directement sur la plateforme ou alors par dépôt de plainte.
De nouveaux locaux pour le Centre d'initiation à l'environnement de Nouvelle-Calédonie. Ils ont été inaugurés hier aux Portes de Fer. C'est une étape importante pour cette association qui réunissait à cette occasion les partenaires financiers qui ont permis le maintien et la reprise des activités du CIENC. Jérémy Katidjo-Monnier est membre du gouvernement en charge notamment de l'environnement.
Voir cette association disparaître, c'était pour nous impossible à envisager. En termes de relais d'action publique qu'on peut avoir dans les écoles auprès de la jeunesse. Donc c'est pour ça que grâce au fonds qui a été créé et voté par le Congrès fin 2024, nous avons pu financer à hauteur de 15 millions les nouveaux locaux, la reconstruction, si j'ose dire, du CIE.
Et l'inauguration symbolise la continuité des missions de la CIE, qui sont au service de l'éducation à l'environnement et la dynamique de relance de ces actions auprès des publics scolaires, associatifs ou citoyens, explique Carole Bernard, c'est la directrice générale du CIE.
Un grand moment de joie, une page qui se tourne. Ça va nous permettre de passer à autre chose et de nous lancer sur la nouvelle année 2026 avec des conditions de travail. Même si on a pu continuer notre action pendant tout ce temps, mais là, vraiment, des conditions beaucoup plus favorables de reconstruction des outils, de pouvoir accueillir du public, etc. Enfin, de pouvoir un peu mieux répondre à nos missions, en fait. Toute personne peut nous solliciter pour mettre en place des formations ou des sensibilisations à la biodiversité, aux problématiques environnementales.
Une journée porte ouverte sera organisée le 2 février dans les nouveaux locaux de la CIE. C'est une journée basée sur la journée mondiale des zones humides. Elle sera gratuite et ouverte à tous. Parlons maintenant d'une discipline qui séduit de plus en plus de sportifs. L'aérox a le vent en poupe depuis plusieurs mois et le phénomène n'épargne pas la Nouvelle-Calédonie. De plus en plus de salles de sport sur le territoire proposent désormais des entraînements dédiés à cette course hybride. Pourquoi l'Aerox connaît-il un tel succès ? Vous êtes penché sur le sujet, Léana Colombo.
Et oui, Jean-François, déjà, Aerox, c'est un nom qui intrigue. Il ne s'agit ni d'un acronyme, ni d'un mot anglais. C'est tout simplement une contraction du mot hybride, où on a rajouté le suffixe rox en anglais pour évoquer la performance. L'Aerox est né en Allemagne en 2017 et est désormais une marque déposée qui fait fureur partout dans le monde. En avril 2025, un événement Aerox organisé à Paris a rassemblé 12 000 participants et près de 15 000 spectateurs, preuve d'un engouement croissant aussi bien chez les amateurs que chez les sportifs confirmés. Ce sport combine endurance, force et mental et repose sur un format unique, des kilomètres de course entrecoupés d'ateliers physiques, explique Caroline Favier, coach sportive chez The Box NC au Quartier Latin.
C'est une compétition qui consiste en fait à alterner un travail de course et un travail d'exercice fonctionnel. Alors, l'exercice fonctionnel, c'est peut-être pas parlant pour tout le monde, mais le functional training, en fait, c'est des mouvements qui vont nous aider de reproduire les gestes de la vie quotidienne. C'est ça le functional training, en fait. Par exemple, le carry farmer, c'est quand dans la compétition Aerox, en fait, tu vas porter des poids, je me baisse, je me relève. Les burpees, c'est travail au sol, travail debout. C'est ça le functional training. Transporter, pousser, tirer, c'est ça le travail fonctionnel. Carry, ça va t'aider à porter tes sacs de course. Le burpees, ça va t'aider, tout bête, tu fais un cours de ski, les 3/4 des personnes qui font du ski n'arrivent pas à se relever. Donc tu vois, ça t'aide aussi à muscler les muscles propres pour te relever.
Souvent comparé au crossfit, l'Aerox s'en distingue pourtant. Le crossfit propose des entraînements très variés qui changent quotidiennement, tandis que l'Aerox repose sur un parcours standardisé, identique pour tous les participants. Un format qui séduit. À la salle F45 en centre-ville de Nouméa, près de 150 personnes s'entraînent chaque jour pour préparer ce défi. Des sportifs en quête de dépassement de soi comme Andrea, adhérent de la salle, attiré par ce nouveau challenge.
Je pense que l'aérox, c'est une discipline là qui explose parce qu'en fait, c'est une course, c'est un objectif fixe. Tu prends rendez-vous avec une date et après, c'est un sport vachement hybride. Moi, je viens tous les jours à F45 m'entraîner et chaque cours est différent et en même temps, chaque cours est bénéfique pour l'aérox parce que du coup, tu peux faire de la muscu, donc du renforcement, tu peux faire du cardio pur et après, le vendredi aussi, les cours spécifiques à l'aérox. J'adore avoir des objectifs et après, l'aérox, en fait, tu vises un chrono. Donc le but, c'est tout le temps d'améliorer ton chrono. Donc en fait, c'est un sport où c'est toi face à toi-même et face à ton chrono. Et à chaque fois, tu vas aller chercher, gratter des secondes, chercher des minutes sur un record personnel, sur ces courses.
La prochaine compétition internationale d'Aerox se tiendra en Nouvelle-Zélande, à Auckland, le 27 janvier prochain. En Australie, un autre rendez-vous est prévu le 12 avril à Brisbane. Plusieurs Calédoniens ont déjà pris leur billet pour y participer.
L'actualité dans le Pacifique. Les pays de la région poursuivent leur lutte contre le trafic de drogue. La police fédérale et la police aux frontières australiennes ont félicité les autorités polynésiennes. Elles ont en effet arraisonné en pleine mer un navire qui transportait 5 tonnes de cocaïne. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cet arraisonnement, qui a eu lieu au large de Tuamotu, dans la zone économique exclusive de Polynésie française, a été conduit par la marine nationale sur un navire battant pavillon togolais qui avait quitté l'Amérique centrale courant décembre. À son bord ont été découvertes près de 5 tonnes de cocaïne, visiblement destinées au marché australien. Nous tenons à remercier nos partenaires de Polynésie française pour leur travail exceptionnel, a déclaré un porte-parole de la police fédérale australienne dans un communiqué. Un narco sous-marin, transportant près de 2 tonnes de cocaïne, a quant à lui été stoppé par la police fidjienne à Tavua, environ 90 km au nord-ouest de Nandi. Ce raid est le fruit d'une collaboration intense entre les forces de l'ordre locales et étrangères, a déclaré le directeur de la police fidjienne, le commissaire Tundravu, lequel a précisé que la police fédérale australienne participe également à l'enquête en cours. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h52, on va marquer une nouvelle pause avant de se retrouver pour l'actualité en métropole. Sébastien Lecornu va finalement avoir recours au 49.3 pour faire adopter le budget de la France. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure, adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité nationale, c'est la suite d'Infomag, retour Jean-François Baudin. Il a dû s'y résoudre malgré les engagements pris à son arrivée à Matignon. Sébastien Lecornu va donc avoir recours au 49.3 pour faire adopter le budget de la France. Les discussions et négociations en cours depuis des mois n'ont pas permis de dégager une quelconque majorité pour voter ce budget. Et à la tribune de l'Assemblée, le Premier ministre a affirmé qu'il n'avait donc pas d'autre choix.
Les choses, vous le savez, sont désormais bloquées. Le texte n'est plus votable, quelles que soient les configurations, quelles que soient les circonstances. Or, nous considérons que la France doit avoir un budget.
Sébastien Lecornu affirme que LFI et le Rassemblement national sabotent les discussions. Les deux groupes parlementaires vont déposer chacun une motion de censure qui seront examinées vendredi. Mathilde Panot, chef de file des députés LFI, met la pression sur les socialistes qui devraient voter le projet de budget.
L'isolement n'est pas du côté de la France insoumise et des insoumis, mais bien du côté des socialistes. Ceux-là même qui protestaient et qui disaient qu'ils allaient censurer le gouvernement Lecornu s'ils ne renonçaient pas au 49.3, et maintenant qu'il emploie et qu'il a recours au 49.3, annoncent là aussi qu'ils ne le censureraient pas, ce qui n'a plus aucun sens.
Ouais, Sébastien Lecornu va donc avoir recours vendredi au 49.3 pour faire adopter la partie recette du projet de loi de finances et une deuxième fois quelques jours plus tard, cette fois-ci pour la partie dépenses. Pendant ce temps, au Sénat, les débats sont intenses autour du projet de loi sur la fin de vie. Projet qui prévoit, je vous le rappelle, de légaliser l'aide active à mourir. Deux visions s'affrontent sur les bancs du Palais du Luxembourg dès le premier jour de débat. Jacques Serret pour Europe 1.
Lorsqu'elle se présente à la tribune, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, est bien décidée à faire passer cette réforme.
C'est une demande très forte de nos concitoyens qui nous est collectivement adressée, celle de ne pas détourner le regard.
Mais face à elle, la droite sénatoriale est loin d'être convaincue, bien au contraire.
Pourquoi ce texte maintenant, alors que tant de patients meurent encore sans accès effectif aux soins palliatifs ?
La rapporteure de la Commission des affaires sociales, Christine Bonfanti-Dossa, monte au front.
La réponse, mes chers collègues, n'est pas médicale. Elle n'est pas non plus juridique. Elle est politique.
Suivie de Bruno Retailleau.
Les garde-fous d'aujourd'hui ne garderont rien du tout. Dans ce domaine-là, les portes entrebâillées finissent toujours grandes ouvertes parce qu'il y a une logique, la logique de l'émancipation radicale.
Une logique défendue par l'écologiste Anne Souyris.
Notre République doit maintenant garantir la liberté, l'égalité, la fraternité face à la mort. Mon corps, mon choix.
Deux conceptions, deux visions de la vie et de la mort irréconciliables.
Marine Le Pen face à la justice. La chef de file des députés Rassemblement National a été interrogée par la Cour dans le cadre de son procès en appel dans l'affaire des parlementaires du Front National au Parlement européen. Elle a été appelée à la barre lors de l'audience du jour, pressée par la présidente du tribunal. Marine Le Pen n'a pourtant rien lâché. Compte rendu d'audience avec Alexandre Chauveau.
Au vu de l'audience préliminaire la semaine dernière, on pensait que Marine Le Pen allait légèrement infléchir sa défense en reconnaissant une partie des faits reprochés. Mais la principale prévenue s'est démenée cet après-midi pour nier sa responsabilité dans un quelconque système de rémunération des assistants parlementaires de son parti. Cela laisse penser qu'il y aurait eu manipulation, s'agace-t-elle. Et ce, malgré les questions de plus en plus précises de la présidente, qui, mail et témoignages à l'appui, place Marine Le Pen dans une situation souvent délicate. Alors la chef de file des députés RN reporte tantôt la faute sur le Parlement européen, coupable selon elle de ne pas avoir alerté le Front National sur un potentiel dysfonctionnement, tantôt sur son père, Jean-Marie Le Pen, qui selon elle avait seul la main sur ce qui se passait à Strasbourg. Même face aux aveux de Julien Odoul sur son absence de travail pour sa députée de l'époque, Marine Le Pen s'accroche à sa défense et affirme ne pas en avoir eu connaissance. L'objectif est clair, minimiser sa responsabilité pour tenter de sauver sa candidature à la présidentielle.
Les 27 pays de l'Union européenne doivent faire front commun contre les velléités de Donald Trump de s'emparer du Groenland. « Vous allez voir jusqu'où je peux aller pour obtenir ce territoire arctique », a-t-il déclaré à la Maison-Blanche. Pour l'instant, il menace 8 pays de l'Union européenne, dont la France, d'une nouvelle augmentation de droits de douane. Des pays européens réunis pour le Forum économique annuel de Davos en Suisse, où le président français Emmanuel Macron affirme qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les menaces du président américain.
Il ne faut pas se laisser impressionner. On doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts, sans être agressif, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons, mais sans se laisser impressionner non plus. Nous, on a un allié, un ami, qui est le Danemark. Quand il est attaqué, c'est normal qu'on soit là. On l'est dans un cadre totalement connu, totalement sincère, totalement transparent, contre personne.
Il faut donc organiser la riposte et noter que le Parlement européen a décidé de son côté de suspendre le processus de ratification de l'accord commercial signé il y a quelques mois entre les USA et l'Union européenne, qui prévoit de supprimer les droits de douane sur les produits US importés vers le vieux continent, ce qui aurait pour conséquence de reporter de quelques mois son entrée en vigueur. L'Europe sur la sellette aussi après la signature la semaine dernière du Mercosur. Le Parlement européen doit se prononcer sur une éventuelle saisie de la justice pour vérifier la légalité de cet accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et ceux d'Amérique du Sud. Là encore, cela reporterait l'entrée en vigueur du texte de plusieurs mois. Les agriculteurs toujours opposés au Mercosur ne désarment pas. Plus de 5000 d'entre eux venus de plusieurs pays ont manifesté la nuit dernière à Strasbourg. Le reportage de Laura Legault pour Europe 1.
Fumigène, banderoles, drapeaux à la main, les agriculteurs n'ont qu'un slogan à la bouche. Non au Mercosur, comme Jérôme, venu de Vendée.
Cet accord, Madame van der Leyen l'a signé, mais nous n'en voulons pas à aucun prix. Nous nous opposerons jusqu'au bout et nous utiliserons toutes les ficelles qui sont en notre pouvoir pour empêcher qu'il s'applique.
Ici, la colère se cristallise contre une femme, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Son nom est hué. Nicolas, 18 ans, l'accuse de mettre en péril l'agriculture européenne.
Von der Leyen, une chose, c'est qu'il faut que ça enrichisse ses poches, mais nous, en nous laissant crever.
Avec plus de 700 tracteurs qui entourent le Parlement, les agriculteurs espèrent bien faire pression sur les eurodéputés avant le vote de demain.
Notre objectif, c'est une saisine de la Cour européenne de justice pour pouvoir reporter ce Mercosur. L'idée à terme, c'est qu'il ne se signe pas, que c'est le dernier recours qu'on a pour que tout s'arrête.
Tous espèrent être entendus, comme Louise, agricultrice dans l'Aisne.
On a de l'espoir, c'est pour ça qu'on est là et qu'on est mobilisés et qu'on est sortis de nos fermes aujourd'hui. On a laissé nos vaches, on a laissé nos tracteurs, parce qu'on y croit encore.
Leur campement est prêt pour passer la nuit face au Parlement et faire pression jusqu'au bout.
Le reportage de Laura Legault pour Europe 1. Il est midi, une dernière pause dans ce journal et avant de voir l'actualité sportive et notamment l'avant-dernière de la phase de Ligue des Champions. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Évadez-vous au Faramédée. Passez une journée inoubliable avec l'équipage souriant de Maridée. Téléphone 26 31 31. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
L'Infomag continue avec le Village Automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. Ces 11 grandes marques réunies sur un seul site avec des offres exceptionnelles. Rendez-vous au Village Automobile au BK4 à Nouméa.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive en retour, Jean-François Bonin.
Et on va débuter par le football avec la 7e et avant-dernière journée de la Ligue des Champions qui a débuté ce matin. Journée vite à oublier pour les clubs français, Léo Fichou.
Oui, puisque parmi les 9 rencontres de la matinée, le PSG jouait sur la pelouse du Sporting Portugal et Monaco se déplaçait au Bernabeu pour affronter le Real Madrid. Deux matchs qui se sont soldés par deux défaites. D'abord les Monégasques qui ont pris une leçon de football, le score 6-1 pour le Real, dont un doublé de Kylian Mbappé. Et puis le Paris Saint-Germain qui s'est incliné 2-1 contre les Portugais du Sporting. Écoutez la réaction du milieu de terrain parisien Vitinha, déçu par un scénario qui se répète.
C'est un peu simple à expliquer. On a contrôlé le match, on avait trop d'occasions, on n'a pas marqué. Ça, c'est un film qu'on a déjà vu beaucoup de fois. Et malheureusement, dans des erreurs, dans manque de concentration, je vais dire, on a pris deux buts et ça nous a coûté la défaite.
Dans les autres rencontres de la matinée, Arsenal continue son sans faute, victoire 3-1 sur l'Inter Milan. En revanche, Manchester City sombre sur la pelouse du Bodo Glimt, défaite sur le même score, 3-1 donc. Au classement provisoire, puisque demain 9 nouveaux matchs sont au programme, Arsenal est en tête devant le Real et le Bayern qui recevra l'Union Saint-Gilloise. Le PSG 5e, Monaco 20e. À suivre demain l'Olympique de Marseille 16e qui recevra à 7h, heure de Nouméa, Liverpool 11e de cette phase de Ligue des Champions.
Le football toujours, mais dans la région avec la deuxième journée de l'OFC Pro League à 13h, le Tahiti United avec ses trois Calédoniens, je vous le rappelle, Germain Aguéwene, Potin Poma et Joseph Attalé devaient affronter les Papous du PNG Ekari. Mais le match est reporté en raison des mauvaises conditions météo sur Auckland en ce moment. Rappelons qu'hier, les Néo-Zélandais d'Auckland, justement, avaient battu le Vanuatu United 3-1. L'actualité du tennis avec le deuxième tour de l'Open d'Australie. Il démarre ce matin. Il ne reste déjà, pourrait-on dire, plus que 6 Français, Léo.
Varvara Gracheva et Elsa Jacquemot chez les dames, Quentin Alice, Corentin Moutet, Alexandre Muller et Arthur Géa chez les hommes. Ce mercredi, 4 d'entre eux sont sur les courts. Elsa Jacquemot ouvrira le bal à 12h30 contre la Kazakh Yulia Putintseva. À la même heure, Quentin Alice défiera Daniil Medvedev, tête de série numéro 11 du tournoi. Dans l'après-midi, on suivra Corentin Moutet, le mieux classé des tricolores encore en lice contre le demi-finaliste du Challenger de Nouméa, l'Américain Michael Zhang, issu des qualifications. Et enfin, dans la soirée, défi de taille pour Alexandre Muller, qui sera opposé au 3e mondial, l'Allemand Alexander Zverev.
Toujours en Australie, il y a du cyclisme et le Britannique Samuel Watson a remporté le prologue du Tour Down Under à Adélaïde. Le coureur d'Ineos Grenadier endosse le maillot jaune, maillot orange pardon, de leader. Le premier Français, Pierre Gautrat, est 5e. La première étape en ligne sera courue aujourd'hui. Elle sera promise aux sprinteurs. Ils auront 120 km à boucler autour de Tanunda.